Corte 2022, Michel Bonnet. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous restez toujours en vie malgré les virus qui essaient de nous faire croire qu'ils auront le dernier mot. Non, c'est pas eux, c'est nous les vivants. Eux aussi, ils auront un mot à dire, mais enfin, ça va. Bon, on va sortir de corde pour aller un peu plus loin, aller jusqu'au Japon. Bon, ça vous étonne pas, évidemment, parce que le Japon et moi, tout le monde sait que c'est très lié. Et étant, ma femme étant japonaise, je m'intéresse au Japon. Mais il se trouve que la semaine dernière, le 10 mars, ça nous rappelle qu'il y a 10 ans exactement, il y avait le tsunami au Japon et à Fukushima qui a été détruit et qui a fait sauter également la centrale nucléaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça nous concerne? Voilà, je voudrais évoquer ça avec vous aujourd'hui. C'est une première partie. Je pense effectivement que, mis à part mes préférences personnelles, mais je pense que c'est important de réfléchir à ce problème de Fukushima, et dans lequel il y a le problème du tsunami et le problème de la centrale nucléaire. Et ça, ça nous concerne. Pour deux raisons. L'une, c'est d'abord que le tsunami, personne n'est venu demander la permission aux Japonais d'envoyer un séisme et une masse d'eau sur le village. C'est la nature, c'est le climat, c'est la terre qui fait ce qu'elle veut et sur laquelle on essaie de vivre. Or, on est là en plein dans les problèmes posés par le réchauffement climatique, le lien entre nous et la nature, entre nous et les forces terrestres qui nous dépassent. C'est ce point-là que on a sans doute un peu oublié et que beaucoup d'entre nous, je pense, beaucoup de dirigeants en particulier, ont oublié, c'est que nous ne sommes pas grand-chose par rapport aux forces de la nature. Nous sommes même, je dirais, rien. Et il suffit qu'il y ait un tremblement de terre et hop, on disparaît. Donc, ça nous concerne parce que on ne sait pas dans les années qui viennent, même si on peut demander aux scientifiques comment l'eau, comment l'air, comment le vent, la météo, l'écorce terrestre, les courants magnétiques et tout ça, comment ça va évoluer. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. Et donc, on est, nous aussi, à la merci d'actions de la Terre, où elle nous aura pas, la Terre en tant que planète, elle nous aura pas demandé la permission de bouger, de faire bouger les plaques tectoniques, etc., etc. Elle continue à bouger. On pense que les rencontres entre les continents ont eu lieu il y a des millions, des centaines de millions d'années, bien sûr, mais ça continue. Ça continue. La plaque africaine et la plaque européenne, elles continuent à évoluer de quelques millimètres tous les 10 ans. C'est pas grand-chose, mais ça prouve que c'est encore vivant. Ça prouve que et puis il suffit de penser aux secousses sismiques qu'on a en permanence, aux éruptions volcaniques que on voit à droite, à gauche, et même ici en Europe, en Italie, c'est en dernier. Donc ça nous concerne. Alors, ce qui s'est passé à Fukushima, ça doit nous rappeler que ce tsunami, eh bien, c'est que la Terre, c'est elle qui est la maîtresse du jeu, c'est pas nous. Même si depuis, disons, la révolution industrielle, on a bouleversé la chose, on est rentré, comme disent les savants, dans l'anthropocène, c'est nous qui fabriquons le monde, eh bien non, nous nous amusons à toucher un peu à l'écorce terrestre, à peine, mais en profondeur, la planète Terre, c'est elle la patronne. Et ça, il faut qu'on y réfléchisse. Bon, c'est le thème de ces petites conversations qu'on a avec Corde 2022, ici, grâce à CFM. Mais c'est pour nous rappeler qu'il faut être à l'écoute de notre planète, et une écoute qui est non seulement attentive, mais amicale. Non pas Vous savez que je suis pas toujours très très copain avec la politique de notre cher président de la République et que je suis pas du tout d'accord pour dire qu'on est en guerre avec la planète ou avec le virus. Non, on n'est pas en guerre. On essaie ensemble d'occuper le terrain et de sauver sa peau comme on peut quand il y a des problèmes. Bref, donc. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce 10e anniversaire du tsunami de Fukushima, eh bien, ça doit nous amener à se demander, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Revoir des photos, revoir sur YouTube quelque chose pour voir ces bateaux qui passaient par-dessus les maisons, etc. quoi. Et bon, pas pour se distraire, pour se dire, purée, nous, si quelque chose comme ça arrivait. Regardez, il y a pas longtemps à Blaye, on a eu la centrale nucléaire qui a été recouverte par les eaux avec la dernière tempête. Bon, ben ça nous intéresse, ça ressemble à Fukushima, hein, même s'il n'y a pas eu les dégâts, si ça n'a pas été pareil, etc. Voilà. Donc profitez de cet événement, de cet anniversaire d'il y a 10 ans sur le tsunami pour nous rappeler qu'il faut que nous ayons en permanence une écoute, un regard attentif ce que fait la planète Terre et comment autour de la planète Terre, le climat et l'air, etc., la couche d'ozone et tout le reste, tout ça, il faut absolument s'en occuper, c'est capital. Bon, on va s'arrêter une minute.
CFM Radio, CFM.
Corde 2022, Michel Bonnet. On parlait donc du 10e anniversaire de la catastrophe de Fukushima au Japon et en quoi ce tsunami qui était arrivé sans que personne s'y attende, sauf les experts avec, encore qu'ils n'étaient pas capables de dire que ça arrivait. Bien, donc c'est un événement qui nous rappelle ce dont on parle chaque semaine avec Corde 2022, c'est que l'avenir, c'est pas nous qui le fabriquons tout seul, nous devons le faire avec les forces de notre planète Terre. Et donc, par exemple, en ce moment, eh bien, l'avenir, eh bien, il se vit avec, en compagnonnage avec le virus. Et oui, en compagnonnage, il s'arrête pas comme on voudrait, il va pas où on voudrait, etc., etc. Bon, il faut s'en occuper, et ça, ça suppose de l'écouter, donc de l'étudier, de l'analyser, d'en parler entre nous, parce que il n'y a pas une seule personne qui a un point de vue universel. Hein, c'est tous ensemble qu'on peut avoir une petite idée de la façon dont marche la planète et les éléments qui la composent. Alors, donc, il y a eu ce tsunami de Fukushima. Ça, c'est une chose. Mais ce qui s'est passé là-bas à Fukushima, c'est que, comme vous le savez, bien sûr, il y avait une énorme centrale, une des nombreuses centrales nucléaires du Japon, qui a été complètement dévastée, enfin, en profondeur, qui a été dévasté par le tsunami. En fait, et ça, ça doit nous interroger, c'est pas exactement le tsunami qui a fait des dégâts dans la centrale. C'est que le tsunami a fait des dégâts sur les réseaux électriques qui ont empêché la sécurité de la centrale de se mettre en route. Donc, vous voyez, c'est pas la centrale elle-même, au sens strict du mot. Et ça aussi, ça devrait nous intéresser, nous faire réfléchir. Mais, voyons voir. Donc, il y a eu, pas explosion au sens technique du mot, quoi, mais, comme vous le savez, donc, la centrale a déversé, à l'extérieur, à la fois de l'eau, des produits contaminés, ça s'est étalé dans la nature tout autour, sur des centaines de kilomètres carrés. Il y a eu donc une invasion, on pourrait dire, une invasion de la pollution atomique, de la pollution nucléaire. Voilà. Et ça, ça nous pose donc à nous une question aussi. Parce que ce qui s'est passé au Japon, mais ça peut se passer partout où il y a des centrales nucléaires. Ça s'était passé à Tchernobyl, on s'en souvient. Et les nuages n'avaient pas demandé la permission de traverser les frontières, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et donc, on est là, dans la mesure où, en France, on a, nous aussi, comme au Japon, des centrales nucléaires en pagaille, où l'essentiel de notre électricité, disons à peu près 80% de notre électricité, comme au Japon, est produite par les centrales nucléaires. Donc c'est extrêmement important. Et un accident nucléaire, du moment qu'il y a une centrale nucléaire, ça peut toujours arriver. Quel accident ? On n'en sait rien. Mais c'est comme tout. Il n'y a pas de risque zéro nulle part dans la nature, ni même dans ce que nous, on a construit, et à plus forte raison, dans ces données ultramodernes que sont, par exemple, l'atome et donc le nucléaire. Or, ça, il faut y réfléchir. Et il y a des gens qui y réfléchissent, évidemment, mais moi, je vous dirais que je suis assez étonné de voir que, habituellement, nos politiques, mais même nous-mêmes, la population, etc., on ne s'intéresse pas beaucoup à ceux qui sont contre le nucléaire ou à ceux qui réfléchissent pour voir les problèmes posés par le nucléaire. Et je pense que cet anniversaire du problème de la centrale atomique, de la centrale nucléaire de Fukushima, devrait nous aider à réfléchir à cela. D'autant plus que on a nous-mêmes ici des problèmes en ce moment pour savoir si on fabrique des EPR, c'est-à-dire des centrales nucléaires nouvelles. Il y en a 6 qui sont en projet. Il semblerait que même nos chers politiques attendent les élections présidentielles pour annoncer qu'on va les mettre en route. Et donc, on en a pour 50 ans. Dans 50 ans, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passera avec le changement climatique. Alors, vous imaginez un peu les problèmes que ça pose. Ça devrait nous intéresser. Il y a des gens qui s'en occupent. Et on les écoute pas beaucoup, on ne lit pas leurs livres, on n'en parle pas beaucoup à la télévision, Il y a qu'à voir, hein. On parle beaucoup plus du Covid-19 que du nucléaire en ce moment. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait profiter de cette occasion pour réfléchir, d'une part, à comment se présentent nos centrales nucléaires, quelles sont celles qui marchent, quelles sont celles qui sont à l'arrêt, quelles sont celles qui vont être mises à l'arrêt, quelles sont celles qui sont vieilles. On nous dit qu'elles ont été prévues pour 40 ans et celles qui ont été bâties il y a 38 ans, 40 ans, ça approche. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les prolonger, soi-disant, de 10 ans de plus, en quoi? Avec un coup de peinture? Ça serait... c'est pas étonnant. Bref, il faut absolument prendre ça au sérieux et je crois que justement, cette actualité de Fukushima nous invite à cela. Un autre point de ce problème de la centrale nucléaire de Fukushima, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ce qui s'est passé, c'est que le tsunami, lui, a détruit les circuits électriques, tout le système électrique qui était chargé de provoquer la sécurité en cas de problème. Or, ces systèmes électriques n'ont pas pu fonctionner, et donc la sécurité n'a pas pu se mettre en route. Et c'est pour ça que ça a fait énormément de dégâts. Or, ça tient à quoi? À de l'eau. À de l'eau qui était là et qui était pas, qui est pas allée à l'endroit qu'il fallait. Or, nos centrales nucléaires, elles ont absolument besoin d'eau. Là, il y en avait trop, et s'il n'y en avait pas assez, ça ferait la même chose. Donc, on est absolument dépendant du problème de l'eau par rapport aux centrales nucléaires, à la fois pour les refroidir, mais pour tout ce qui tourne autour de la centrale nucléaire. Et ça, le problème de l'eau, c'est un problème énorme, parce que ça dépend d'un tas de choses, ça dépend de la pluie, ça dépend du climat, ça dépend des fleuves qu'on a, ça dépend de la fonte des glaces, etc., etc. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup une rivière, un fleuve débordait ou au contraire était tellement à sec que la centrale ne pourrait pas recevoir l'eau qu'il faut pour la rafraîchir. Et puis, qui dit l'eau? Qui sort, quand elle rentre dans la centrale, elle est fraîche, mais quand elle sort de là, elle a été réchauffée d'une tapée de degrés. Hein. Bon, ça dépend de tas de choses, on ne va pas rentrer dans le détail, mais cette eau chaude, comment réagissent les poissons qui sont à la sortie, hein, qui étaient habitués à avoir une eau fraîche, etc. Donc ça détruit des tas de choses. La biodiversité qui sort de... Enfin, simplement la biodiversité qui est dans le périmètre de sortie des eaux d'une centrale nucléaire est obligée de changer. Elle est obligée de réagir. Des poissons sont obligés de s'enfuir. Les oiseaux chantent pas de la même façon, etc., etc. Donc, tous ces problèmes-là sont extrêmement importants et ça demande qu'on y réfléchisse, qu'on en parle entre nous, qu'on se documente. Et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui d'insister là-dessus pour qu'on prenne ça au sérieux. Même nous, ici à Cordes, si on n'a pas de centrale nucléaire tout à fait à proximité. On s'arrête une minute de plus.
CFM Radio. CFM.
Hey fellas, I was down at the racetrack the other day and I saw the Baron. Now guess what's happening? Man, I think Baron's out there playing the horses again. Well, what do you know?
We found out.
Oh yes, we did.
We found out.
He couldn't keep it hid.
We found out.
Yeah, we found out that Baron plays the horses.
We found out.
Oh man, oh man.
We found out.
He kept it in a can.
We found out.
Yeah, we found out that Baron plays the horses. He thinks about him every day. He dreams about him every night.
Found out
that Baron plays the horses.
That's all right, baby.
Say, Baron, what horse did you play today? Ah, sweet potato, did she win? Did she place? Well, she sure won.
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous continuons à parler de Fukushima et du Japon. Parce que là, on a parlé de la centrale nucléaire et des relations que ça pouvait avoir avec notre situation en France. Mais il y a un autre point qui est intéressant, enfin qui n'est pas du tout intéressant, mais qui est, il faut absolument soulever, c'est qu'au Japon, comme en France, il y a une population, et au Japon, comme en France, il y a un gouvernement qui s'occupe de cette population. Or, comment ça s'est passé pour la population au Japon et pour le gouvernement au Japon avec le tsunami et le problème de Fukushima? Eh bien, d'abord, il y a eu plus de 100 000 personnes qui ont été déplacées. C'est quand même pas rien. Hein. Imaginez qu'on nous dise ici que la ville d'Albi et tout le pays cordé, tous les villages, tout ça, il faut les vider complètement, plus une seule maison interdite de rentrer là-dedans, ça poserait des problèmes à pas mal de gens. Hein. Et ceux qui ont rénové les belles demeures médiévales de Corde, qui seraient obligés de quitter ça pour aller s'installer, je sais pas où, quelque part en France, ça ne nous ferait pas plaisir. Ne parlons pas des agriculteurs, etc., etc. Donc, voilà, tout un... une population assez importante qui a été déplacée. Bon, bien sûr, le gouvernement, pour pouvoir a fait en sorte qu'ils soient accueillis dans d'autres endroits. On leur a donné des subventions pour vivre, mais depuis 4 ans, les subventions ont été stoppées. Le gouvernement a estimé que les populations s'étaient retrouvées comme il fallait, ça allait très bien, et hop, et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que il y a des tas, dans ces populations-là, il y a des hommes, des femmes et des enfants, bien sûr. Et les hommes, il y en a qui ont trouvé du boulot ailleurs, mais il y en a qui n'ont pas trouvé de travail parce qu'ils attendaient de pouvoir rentrer chez eux. Parce qu'on leur disait, ça va s'améliorer, vous aurez de nouveau du travail. Effectivement, c'est ce qui se passe en ce moment, depuis un an ou deux. Ils essaient de revenir chez eux, dans leur village qui a été décontaminé, soi-disant. Mais enfin, mettons que ça soit vrai. Et ils essaient de trouver du travail. Or, ils n'en trouvent pas. Ils sont au chômage, ou ils en trouvent très peu. Ils sont mal vus parce qu'on dit « Oh, mais vous avez été contaminés ». Et puis, c'est pas les boulots auxquels ils étaient préparés, pour lesquels ils étaient qualifiés, etc. Donc, il y a un énorme problème pour ces travailleurs-là qui n'arrivent pas à se resituer dans une vie de travail normale. Mais l'autre pan du problème, c'est qu'ils sont obligés de quitter leurs femmes et leurs enfants, qui eux se sont réinstallés ailleurs. Parce que les femmes et les enfants, les familles, ont peur de rentrer sur un terrain contaminé, de se retrouver dans un endroit où ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et donc, on voit un des gros problèmes à l'heure actuelle de cette portion du Japon. Bon, c'est 100 ou 200 000 personnes, c'est pas énorme, mais c'est toujours quand même, si on se met d'un point de vue... Quand ça nous touche à nous en famille, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité de la personne. Eh bien, voilà donc des foyers qui sont complètement désunis et des femmes qui ne savent plus comment s'en tirer parce que le mari trouve pas du travail ou qu'il est parti trop loin, etc. Et puis, vous voyez par derrière ce qui se passe, on le connaît, les enfants là-dessus ont été très marqués. Pas seulement par le choc, par le tsunami, par l'évacuation forcée, etc., mais en profondeur, par les irradiations qu'il y a eu. Or, on ne fait pas d'études, malgré les apparences, malgré tout ce qu'on dit, on ne fait pas d'études sur l'état de santé de ces enfants depuis quelques années. Il y a un point seulement que l'on a étudié, c'est les cancers de la thyroïde. Mais il n'y a pas que ça. Et en plus, les cancers de la thyroïde, sur la population habituelle au Japon, on comptait, avant Fukushima, on comptait 3 à 4 cas par an de cancer de la thyroïde. À l'heure actuelle, on en compte 300, presque 300. c'est multiplié, c'est incroyable. Il a fallu qu'il y a quelques jours, à l'occasion de, justement la semaine dernière, à l'occasion de l'anniversaire de Fukushima, l'ONU s'est fendue d'un... Enfin, l'ONU, l'OMS, disons, l'Office mondial de la santé, s'est fendu d'un communiqué disant « N'ayez pas peur, on sait que Fukushima n'a pas eu d'impact sur la santé, des gens n'a pas d'impact sur la santé. » Bon, on sait comment les différents groupes de lobbying arrivent à faire dire des choses qui sont absolument contraires à la vérité. Bref. Qu'est-ce qu'on se rend compte en regardant la situation au Japon, si on a un peu l'occasion? Bon, moi je suis peut-être un peu placé spécialement parce que avec ma femme et mes relations avec le Japon, on a des nouvelles, on a etc. Mais enfin, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe au Japon? C'est important de le voir. Et pourquoi? Mais parce qu'on se rend compte que l'attitude du gouvernement a été de ne pas prendre cela au sérieux. Il a pris au sérieux l'électricité, il a pris au sérieux l'avenir des centrales nucléaires, il a pris au sérieux les entreprises d'électricité, etc., mais pas les gens, pas la population. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, en France, eh bien, j'ai l'impression que ça va se passer un peu de la même façon, ou que ça se passe un peu de la même façon. Regardez ce qu'on nous raconte sur le Covid-19. Qui sait où on en est? Est-ce que le virus devient de pire en pire ou pas, etc. Non. Donc il faut, on peut pas aujourd'hui dans n'importe quel pays du monde. Il y a qu'à voir avec le Brésil, avec Bolsonaro, il y a qu'à voir Trump aux États-Unis, etc. On peut plus faire confiance purement et simplement à nos dirigeants politiques. Donc il faut qu'on se bouge, il faut qu'on prenne les choses en main et que on parle de cela, qu'on étudie, qu'on y réfléchisse, etc. En France, la situation d'EDF, elle est comme la situation des centrales au Japon. Regardez les problèmes qu'on a eus avec le compteur Linky, et il y en a encore. Et pourtant, c'est un tout petit problème, le compteur Linky, dans le monde de l'électricité et de l'énergie. Donc, vous voyez, un point supplémentaire de contact qu'on a avec le Japon tel qu'il a été, disons, pas traumatisé si on peut dire, mais enfin, bousculé par le tsunami et la centrale nucléaire, c'est justement ce problème de la politique de nos gouvernants, jusqu'à quel point on a droit à la parole pour faire face à nos problèmes. Et ça, c'est... au niveau international, au niveau européen, au niveau national, mais j'ai envie de dire, c'est aussi, et peut-être d'abord à notre niveau, à nous, au niveau du Tarn, au niveau de même du pays cordé, au niveau de la communauté des communes. Il faut absolument qu'on se bouge, qu'on prenne en main la parole. Et ça, si je peux me permettre... Quand Raymond VII a décidé de construire Cordes, la première chose qu'il a fait, ça a été de dire « il n'y aura pas un seigneur qui va donner des ordres, il n'y aura pas un prêtre qui va donner des ordres, ou un évêque qui va donner des ordres à la population, c'est vous, les bons hommes, les prud'hommes, les consulats, vous les appelez comme vous voulez, peu importe, vous allez faire des élections, et c'est vous qui prenez en main votre vie à Cordes. » Et c'est comme ça que Cordes est devenue, au moins autrefois, au départ, une très belle cité. Donc, on se retrouve, quand on pense à 2022 et à comment on pourrait fêter la fondation de Cordes, eh bien, une chose, ça serait de fêter la prise du pouvoir de la population par rapport aux problèmes qui nous intéressent. Bon, je vais m'arrêter sur ces considérations qui sont très politiques, mais on va être obligé de parler politique de plus en plus souvent, d'autant plus que, ne serait-ce que parce que Raymond VII, il a fait de la politique, et c'est à cause de ça que Cordes a décidé a commencé à exister. On fait une pause.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk to you again.
because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. In the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the
Corps de 2022, Michel Bonnet. Nous avons parlé jusqu'à maintenant de Fukushima et du Japon, mais revenons sur le pays, notre pays, là où on est, là où on a les pieds bien en terre, et on a là aussi un séisme qui est en train de se préparer, et sur le projet de loi sur le climat qui vient de d'être présenté par le gouvernement comme suite aux propositions de la Convention pour le climat. On en parle, on va en parler, les journaux, tout ça, je ne vais pas vous donner mon opinion là-dessus, je ne vais rien vous enseigner, mais comme d'habitude avec ces émissions de CFM, je vous donne l'occasion d'y réfléchir. Or, c'est important ce qui se passe ces jours-ci, ce mois-ci, au niveau du gouvernement, par rapport au problème du climat, avec ce projet de loi sur le climat. Rappelons-nous que c'est le président de la République qui a créé, à sa façon, mais peu importe, qui a créé la Convention sur le climat, qui les a fait travailler, ils ont donné le compte-rendu de leurs travaux. Ils ont fait des propositions au gouvernement. Le gouvernement a pris ça en main et maintenant il dit, eh bien voilà comment on va appliquer ce que vous avez proposé. Or, quand ceux qui ont proposé la convention, c'est-à-dire les membres, les 149 membres de la Convention citoyenne sur le climat, ils ont reçu il y a quelques jours le projet du gouvernement. Et ils ont fait une journée de session pour analyser ce projet et dire comment ils voient l'application de ce qu'ils avaient proposé. Or, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont voté pour chacune des grandes, chacun des grands thèmes. Vous savez, il y a 5 grands thèmes dans la convention collective, dans la convention citoyenne, et pour chacun de ces thèmes, ils ont voté. De 0 à 10, est-ce que ça nous plaît, est-ce que c'est valable ou pas, etc. Or, la moyenne qu'ils ont donnée au gouvernement a été de 2,5 sur 10. Et si n'importe quel de nos gamins ou gamines qui, à l'école, se retrouverait avec 2,5 comme note, et je crois que ça ferait du bruit, hein, à la fois entre les parents et l'école, et entre les parents et l'enfant, et etc., etc., quoi. Bon, eh bien, voilà comment, donc, est vu par ceux qui ont fait cette convention, c'est-à-dire par nous, parce que ce sont des citoyens comme vous et moi, qui au départ d'ailleurs, ils connaissaient guère plus, et ils ont bossé, ils ont fait ce qu'on leur a dit, et voilà, on prend ce qu'ils ont fait, on le transforme, et ils regardent ça, et ils donnent 2,5 de moyenne là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il se passe que le gouvernement, à l'heure actuelle, est-ce que ça va continuer jusqu'à la fin du mois, on n'en sait rien, puisque en ce moment c'est étudié en commission, hein, et c'est simplement à la fin du mois que ça va sortir en assemblée générale au Parlement, et que là, il y aura des amendements, des changements, des nouvelles propositions, enfin, etc., etc. Mais enfin, ça semble assez mal parti. D'autant plus que, il faut bien se rendre compte que à la fin du mois de février, il y a eu ce qu'on appelle le Haut Conseil pour le climat, qui est chargé de regarder qu'est-ce que fait le gouvernement pour le climat, etc. Ils sont des experts et des gens qui sont mandatés, qui font partie de ceux qui ont sont obligés par profession de donner leur avis. Or, qu'est-ce qu'ils ont dit ? C'est que ce projet du gouvernement tel qu'il est ne permettra pas d'atteindre le but qu'il annonce, c'est-à-dire une diminution du CO2 dans l'atmosphère d'ici, enfin, le problème du carbone dans l'atmosphère, donc d'ici 20 ou 30 ans, quoi. Non, pas 20 ou 30 ans, 20 ans, vous voyez. Bon, donc déjà, ce Haut Conseil pour le climat, il dit ça va pas. Mais essayons de voir les membres de la convention, comment ils ont vu ça. Et pour ça, voilà ce qu'on dit. D'une part, le gouvernement a pris dans les mesures de la convention, il en a pris quelques-unes. Qu'il a, par exemple, mettre l'éducation à l'environnement dans les programmes d'éducation sur le développement, etc. Agir contre l'artificialisation des sols à compter de 2022 ou 2023. Attention au lien entre l'agriculture locale et l'alimentation qui est fournie dans les collectivités. Il y a comme ça une dizaine sur 140, hein, ça fait pas beaucoup, une dizaine de projets de loi qui ont été pris. Mais c'est tout. Après ça, qu'est-ce qu'ils font ? Après ça, il y en a tout un paquet, une vingtaine de propositions qui ont été en quelque sorte coupées. Vous voyez, par exemple, les citoyens demandaient une baisse de la TVA sur les billets de train, de façon à ce que on puisse voyager plus facilement, etc. Bon, ça, le taux de la TVA n'a pas été suivi. Enfin, il y a des choses comme ça. Et surtout, ils ont pris les mesures que les citoyens prévoyaient. Ils les ont, au lieu de les rendre efficaces à partir, par exemple, de 2022, hein, ils ont dit, bon, ça sera comme ça à partir de 2025 ou de 2030. Donc, ils retardent. Et pendant ce temps, bon, qu'est-ce qui va se passer ? On n'en sait rien. Et ça, c'est on peut dire, en permanence, si on étudie les propositions de loi, l'une après l'autre, on sent qu'il y a une stratégie de repousser en permanence ces échéances. On sait que pour faire face au changement climatique, il faut s'y mettre rapidement. Les experts le disent, c'est pas chaque année qui compte, c'est chaque jour qui compte, parce que ça s'accumule et que le carbone, etc., lui ne réagit pas un petit coup de pouce comme ça. Quand il est dans l'atmosphère, il y reste pour des centaines d'années, quoi. Et donc c'est extrêmement important. Par exemple, il était proposé que sur tous les produits alimentaires que on reçoit en magasin, que sur le sachet, il y ait un code qui permette de se rendre compte de l'impact sur le carbone de la fabrication de ce produit. Hein? Bon, ça va pas loin, c'est de l'imprimer. Hein? Eh bien, ils avaient dit, on le fait de suite, là, maintenant, dès 21 ou dès 22. C'est une affaire de... Enfin, ça devrait se faire assez facilement. Non, le gouvernement propose de le faire à partir de 2025. Mais jusqu'en 2025, il vaut mieux pas parler carbone. Ouais, c'est assez impensable. De la même façon, par exemple, la vente... la convention citoyenne demandait à ce que, dans les grandes surfaces, soit promue, ou même parfois imposée, la vente en vrac, pour empêcher que tout soit diminuer les emballages, diminuer les emballages plastiques, etc. Bon, ben au lieu de prendre ça comme ça, ils ont dit bon, on le mettra, ça sera imposé dans 20% des magasins seulement, et non pas. Vous voyez comment on restreint tout ça. Et de même, au niveau du périmètre qui risque d'être touché par ces lois, tout le monde en a parlé un peu. La convention dit tous les trajets qui se font par avion. Et il y en a énormément et ça fait beaucoup de pollution. Donc on va supprimer les trajets par avion quand la différence entre le train et l'avion est supérieure à 2h30 et inférieure à 2h. Donc si avec un avion on gagne 2h de temps, eh bien on le supprime, le train est toujours aussi valable. Eh bien, la loi prévoit non pas 2h30, mais 4h. Autrement dit, ça touche beaucoup moins, à peine 10% des lignes aériennes de France. Donc, autrement dit, ça sert pas à grand-chose. Ils ont, de même que les projets d'agrandissement des aéroports, la Convention citoyenne demandait à ce que ça soit étudié et qu'on ne permette pas n'importe quel agrandissement, etc. Le projet de loi ne va toucher que les 10 plus grands aéroports de France. Donc, va toucher les aéroports, sauf les 10 plus grands aéroports de France, c'est-à-dire ceux qui font le plus de dégâts au point de vue climat, au point de vue pollution du climat, etc. La Convention citoyenne proposait, par exemple, que qu'on oblige les fabricants de produits, d'outils, de pièces détachées, notamment pour tout le monde de l'automobile ou des machines, etc., qu'on puisse avoir des pièces détachées pour tout produit qui est fait en France, de façon à ce qu'on puisse réparer et non pas acheter une nouvelle machine. Eh bien, c'est le projet de loi maintenant qui est discuté, dit ça, on le remplace par une liste précise de chaque produit. Donc voyez comment tout ce projet de loi qui est en discussion maintenant, et c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser, va vraiment mettre de côté une grande partie de ce que nos amis nous, à travers la Convention citoyenne, on a proposé comme solution par rapport au réchauffement climatique. Voyez, c'est quelque chose qui nous touche, à la fois parce que à travers la Convention citoyenne, on a quand même travaillé énormément et qu'on est méprisé, et donc on n'a pas du tout envie de ça. Et d'autre part, ça ne résout pas du tout le problème. la conclusion, c'est que pour l'avenir de Cordes après 2022, eh bien, il faut nous intéresser à ce qui se passe au gouvernement pendant ce mois de mars, que ce soit la commission sur le climat ou que ce soit l'Assemblée nationale. On va s'arrêter là-dessus. C'est pas très positif, si vous voulez, mais si ça nous met en route, et donc si on se met en route, eh bien, l'avenir sera un peu meilleur que si on ne s'y mettait pas en route. C'était Cordes 2022. Je vous dis au revoir. Michel Bonnet.
Thank you. waiting on.